Les mystères du Palais Royal, sixième partie. Chapitre 19. L'homme aux moustaches. Le lendemain, dans l'après-midi, M. de Tiange, parfaitement au fait de ce qu'il aurait à dire à Jeanne, pour conserver dans toute cette affaire l'apparence d'initiative qui lui avait été prêtée par Raoul, vint prendre ce dernier et la jeune femme pour les conduire au Palais Royal. Il apportait un déguisement pour Jeanne. Déguisement bizarre au plus haut degré, mais le seul qui fût éminemment propre à soustraire les traits de la blonde reine de Saba à toute investigation indiscrète. C'était un costume complet de négrillon, veste écarlate bordée d'or, pantalon de satin blanc flottant et s'attachant avec des anneaux d'or au-dessus des chevilles. Une sorte de fez algérien, une perruque et un masque de cire d'une incroyable perfection complétèrent ce déguisement qui métamorphosa Jeanne en un délicieux échantillon de la race guinéenne. Malgré la gravité de la situation, la jeune femme ne put s'empêcher de rire beaucoup en se regardant ainsi accoutrée dans une glace qui, au lieu de lui envoyer les traits frais et blancs de son doux visage de jeune reine, réfléchissait le nez épaté, les lèvres lipues et le teint plus que bistré de sa figure négrillonne. La voiture de M. de Tiange, conduite par ce valet en qui il avait toute confiance et qu'il avait emmené dans l'expédition du Petit Chastel, était dans la cour dont on avait refermé les portes. Jacques, le fidèle Jacques, devait monter seul derrière le carrosse sur le strapontin, habituellement occupé par deux ou trois grands laquais. Raoul jeta un manteau sur les épaules de Jeanne, afin de cacher son costume aux couleurs éclatantes. Et nos trois personnages quittèrent l'appartement du premier étage et prirent place dans le carrosse qui les attendait. Jeanne et le marquis de Tiange s'installèrent dans le fond et Raoul s'assit en face d'eux. Les portes de la cour furent alors ouvertes et le valet qui servait de cocher rendit la main à ses chevaux. Au moment où le carrosse venait de tourner à droite dans la rue, un homme, qui semblait apposté pour faire le guet, car depuis de longues heures il allait et venait devant l'hôtel comme une sentinelle devant sa guérite, s'élança hardiment sur le marchepied et plongea sa tête avec une rare impudence dans l'intérieur du carrosse. Cet homme était très grand, très maigre, très pâle. Il avait de longues moustaches noires et portait sur l'œil droit un large bandeau qui cachait une bonne partie de son visage. Il sentait le vin et le tabac. Jeanne, à la vue de cette figure extraordinaire, dont l'apparition était si peu attendue, ne put retenir une exclamation de surprise et de frayeur. M. de Tiange mit la main sur la garde de son épée. Raoul prit l'homme au collet pour le repousser. Mais il n'en eut pas le temps. Sans doute, l'inconnu aux moustaches noires avait vu tout ce qui lui importait de voir, car il fit un brusque mouvement de retraite et se prépara à sauter sur le pavé au risque de se rompre les os, car les chevaux allaient comme le vent. « Ah, c'est toi, gredin !» cria Jacques. « C'est encore toi !» Et s'adressant au cocher, il ajouta « Breton, coupe-lui la figure à coups de fouet !» Breton ne se fit pas répéter deux fois cette injonction. Il décocha à l'intrus en plein visage un coup si rude et si bien appliqué que la lanière traça sur la joue un sillon bleuâtre et que quelques gouttes de sang jaillirent. Presque aveuglé et tout étourdi, l'homme aux moustaches lâcha le rebord de la portière, puis de la hauteur du marchepied, roula comme une masse sur le pavé. Les roues du carrosse passèrent à quelques lignes à peine de ses jambes sans le toucher. Breton et Jacques crurent d'abord qu'il s'était tué raide. Mais sans doute il était de la nature des chats qui tombent sans se faire le moindre mal. Son immobilité dura tout au plus une ou deux secondes. Il se releva clopin-clopant et il s'éloigna en grinçant des dents après avoir montré le poing au carrosse qui s'éloignait. « Qu'est-ce donc que cet homme et que voulait-il ? » demanda le marquis de Tiange à Raoul. « J'imagine que c'est un fou, » répondit ce dernier. « L'étrangeté de sa conduite semblerait le prouver. »« Il était affreux, » murmura Jeanne. « Mais j'ai peur que vous ne l'ayez repoussé un peu brutalement et qu'il ne se soit fait mal en tombant. » Monsieur de Tiange mit la tête à la portière et regarda en arrière. « Soyez sans crainte, madame, » dit-il. « Voilà qu'il s'en va comme si de rien n'était. Ah, le drôle se retourne et me montre le poing. J'ai fort envie de descendre, de courir après lui et de le châtier. » N'en faites rien, monsieur le marquis, je vous en prie, répliqua Jeanne. L'action de cet homme était inconvenante, c'est vrai. Mais enfin, il ne nous a ni insultés ni menacés. Et d'ailleurs, il est assez puni. Monsieur de Tiange s'inclina en signe d'adhésion et parla d'autre chose. Quant à Raoul, il restait muet, absorbé, et une ride profonde se creusait entre ses sourcils. Il avait reconnu Mathias Aubert, Mathias le lynx, Mathias l'espion, et il se demandait si l'étrange démarche de cet homme n'était pas un présage funeste, l'annonce et l'avant-coureur de quelque imminente catastrophe. Le carrosse arriva au palais royal. Nos trois personnages descendirent, et le marquis s'engagea avec le faux négrillon dans l'escalier qui conduisait à l'appartement mis par son Altesse royale à la disposition de Raoul. Ce dernier restait en arrière pour échanger quelques paroles avec Jacques. « Pourquoi, lui demanda-t-il, as-tu crié à cet homme au moment où il était debout sur le marchepied ? Ah, c'est encore toi, gredin !»«
Je lui ai crié cela, monsieur le chevalier, parce qu'en effet, c'est un gredin !» répondit Jacques.
« Comment le sais-tu ? Tu le connais donc ?
Je l'ai vu aujourd'hui pour la première fois.
Eh bien alors ?
Mais ça m'a suffi pour le juger. Monsieur le chevalier a-t-il remarqué que ce misérable avait un bandeau noir sur son vilain visage ?
Oui. Eh bien, sous ce bandeau, il porte de mes marques. Et s'il plaît à Dieu, il les portera longtemps.
Vous vous êtes donc battu ?
C'est-à-dire, je l'ai battu.
Que t'avait-il fait ?
Il m'avait insulté.
Comment ? En venant me faire des questions sur monsieur le chevalier et en m'offrant de l'argent si je voulais lui répondre.
Et tu n'as pas répondu ?
J'ai répondu en lui appliquant sur la joue les 5 ongles de ma griffe droite.
Et c'était ce que sa proposition méritait.
C'est bien, Jacques, et je n'attendais pas moins de toi.
Monsieur le chevalier est trop bon, car si j'avais répondu, j'aurais été plus canaille que ce gredin-là.
Et dis-moi, Jacques, que voulait-il savoir ?
Beaucoup de choses, et des choses plus impertinentes les unes que les autres.
Ne pourrais-tu préciser ?
Ce qui semblait le préoccuper tout particulièrement, c'était les 2 mariages de monsieur le chevalier. Il ne cessait de me parler de la première et de la seconde madame de la Tremblay. Il tenait surtout à savoir quand et comment la première était morte, et quand et où monsieur le chevalier avait épousé la seconde.
Écoute-moi, Jacques, fit Raoul. Je suis tout oreille, monsieur le chevalier.
Tu m'as dit souvent que si je te donnais un ordre, quel qu'il fût, et quand bien même il entraînerait pour toi péril de mort, tu n'hésiterais pas à l'exécuter.
J'ai dit cela, monsieur le chevalier, et je le répète.
Es-tu toujours dans les mêmes dispositions ?
Toujours, et pour toujours.
Eh bien, retiens l'ordre que je vais te donner.
Ah ! S'écria Jacques, la mémoire est bonne.
Mais d'abord, dis-moi, si tu rencontres jamais l'homme de ce matin et de tout à l'heure, le reconnaîtras-tu ?
Fût-ce dans 10 ans, fût-ce dans 20 ans, et fût-il déguisé jusqu'aux dents, je le reconnaîtrais.
Tu en es sûr ?
J'en suis sûr.
Eh bien, souviens-toi que cet homme est un venimeux reptile. Souviens-toi que le jour où tu le rencontreras, je te donne l'ordre de le tuer comme on tue un chien enragé ou un dangereux serpent.
Jacques frappa son front.
Monsieur le chevalier, dit-il, c'est gravé là.
Tu m'obéiras ?
Oh, pardieu ! Et si j'avais su ça tantôt, quand ce bandit a voulu m'acheter, j'aurais obéi d'avance à monsieur le chevalier. Mais je ne savais pas. Enfin, maintenant que j'ai la permission d'agir, je demande au bon Dieu de m'envoyer le plus vite possible une bonne occasion. Je brûlerai la cervelle au quidam d'un coup de pistolet, ou je l'embrocherai d'un coup d'épée. Et il n'aura pas seulement le temps de réciter l'oraison dominicale.
Surtout, ne va pas te battre avec lui. Tue-le, sans dire gare.
Monsieur le chevalier m'a parlé d'un chien enragé et d'un serpent venimeux. C'est compris.
Bien. Maintenant, mon bon Jacques, je n'ai plus besoin de toi avant l'heure indiquée. Va où tu voudras.
Jacques s'éloigna. Raoul monta, pensif, l'escalier que le marquis de Tiange et le négrillon avaient franchi un instant auparavant.
« Mathias Aubert m'espionne, » se disait-il à lui-même. « C'est incontestable. Mais qui paye cet espionnage ? Dans quel but ? Dans quel intérêt l'a-t-on commandé ?
Mathias Aubert est bien habile et bien dangereux.
Que sait-il ? Qu'a-t-il découvert ? Qu'a-t-il appris? Pourquoi ces questions étranges sur mes deux mariages? Sur mes deux femmes? Qui donc fouillait ainsi dans ma vie? Il me semble que l'orage s'apprête, il me semble que la foudre va gronder contre moi. Eh bien, vienne le tonnerre et la tempête, je lutterai. Chapitre 20. Le salon de la nuit. Antonia Verdi. Tout en formulant dans son esprit ce monologue désordonné, Raoul avait achevé de gravir l'escalier. Il avait suivi une galerie assez longue et il frappait d'une façon particulière à une porte qui s'était déjà refermée sur le marquis de Tiange et sur Jeanne. Cette porte s'ouvrit et Raoul pénétra dans l'appartement et bientôt dans la pièce même où devaient avoir lieu les scènes mystérieuses de la nuit suivante. Cette pièce était vaste et sa décoration offrait un style grandiose et sévère qui ne rappelait en aucune façon les luxueuses et éblouissantes frivolités des autres parties du palais royal. Le plafond en forme de coupole et peint à fresque représentait le triomphe de la nuit. Quatre tableaux, dus au pinceau de l'immortel Le Sueur et malheureusement détruits pendant les plus mauvais jours de la Révolution, étaient l'admirable mise en scène de quatre épisodes de l'histoire de Proserpine aux Enfers. Les embrasures profondes des quatre fenêtres étaient masquées par de splendides rideaux de tapisserie des Gobelins qui, tombant devant ces fenêtres en plis lourds et droits, pouvaient même, en plein jour, créer dans ce salon, qu'on nommait au palais royal le salon de la nuit, une obscurité complète. Par les soins de Raoul et du marquis de Tiange, la tapisserie de la reine de Saba avait été, non pas tendue, mais suspendue, de manière à couper un des angles de la pièce et à le métamorphoser en une sorte de cabinet triangulaire, renfermant une porte de sortie. Le bas de la tapisserie s'appuyait sur une sorte d'estrade haute d'environ 3 pieds. Une balustrade mobile divisait le salon en 2 parties. La première, destinée à Philippe d'Orléans et aux autres spectateurs, la seconde aux acteurs de la comédie magique. Du reste, ces acteurs ne devaient être qu'au nombre de 2, Raoul et la reine de Saba. La balquise de la tapisserie portait un magnifique costume d'une richesse écrasante, moitié drap d'or et moitié brocart, tout constellé de pierreries, et rappelant d'une façon frappante ces miraculeux ajustements que Paul Véronèse aimait à draper sur les blanches épaules des femmes de ses tableaux. Un turban oriental de satin blanc lamé d'or, sur lequel une agrafe de diamants attachait une aigrette blanche, complétait ce costume. Un costume identiquement pareil avait été exécuté en 3 jours par les ordres de Raoul. Jeanne, à qui son mari servit de femme de chambre dans le cabinet triangulaire, échangea son déguisement de négrillon contre cette parure biblique. Et quand ce nouveau travestissement fut complet, quand la reine de Saba vivante se plaça à côté de sa muette reproduction, Raoul et le marquis de Tiange ne purent retenir un cri d'admiration et d'étonnement, non seulement à cause de la surhumaine beauté de la jeune femme, mais encore parce qu'il était impossible, à l'œil le plus attentif, de distinguer la copie de l'original. Alors commença la répétition. Nous nous abstiendrons d'y faire assister nos lecteurs par cette raison bien simple et dont tous ceux qui se sont occupés d'art dramatique apprécieront la justesse, par cette raison, disons-nous, que pour quiconque a été témoin de la répétition générale d'une pièce, la première représentation de cette pièce perd la plus grande partie de son intérêt. Nous allons donc abandonner à eux-mêmes le marquis de Tiange, Raoul et Jeanne, et nous ne les retrouverons plus qu'à minuit, leur sombre et solennelle, des évocations et des fantômes. Transportons-nous, si vous le voulez bien, ce même jour et vers 10 heures du soir, dans ce petit hôtel de la rue de la Cerisaie, donné par Philippe d'Orléans à la belle magicienne Antonia Verdi. Pénétrons dans un délicieux boudoir, tendu de satin de Chine, illustré de fleurs invraisemblables et de fabuleux oiseaux, et nous nous trouverons en face d'Antonia Verdi, elle-même, assise, ou plutôt couchée, sur un sofa recouvert en étoffe pareille à celle de la tentue. Antonia Verdi était une femme excessivement jolie. mais pour celui qui, sur sa réputation d'habile magicienne, se serait attendu à voir une beauté sévère et même un peu sinistre, la déception aura été complète. Antonia Verdi était plutôt petite que grande, admirablement bien faite, mignonne dans ses formes gracieusement arrondies. Il y avait en elle quelque chose de la câlinerie coquette et provocante d'une jeune chatte. Son visage était un peu plein, ses yeux très grands, très noirs, très expressifs et fendus en amande. Son nez merveilleusement joli et correct. Ses lèvres rouges, ses dents éclatantes, son teint bruni comme celui des belles filles de Florence ou de Naples. Elle avait de magnifiques cheveux d'un noir velouté. Elle les portait sans poudre et divisées en deux nattes longues et épaisses qui, lorsqu'elle ne les roulait pas autour de sa tête pour s'en faire un diadème splendide, tombaient jusqu'à ses talons. Au moment où nous venons d'entrer dans le boudoir d'Antonia Verdi, la physionomie de cette séduisante femme exprimait la plus vive impatience. Elle tenait une de ses nattes et avec le bout de cette natte, elle fouettait vivement et machinalement le haut de son épaule ronde et rose que son peignoir un peu défait laissait à découvert. 10 heures sonnaient à la pendule de porcelaine de Saxe placée sur la cheminée du boudoir. Antonia se souleva et frappa sur un timbre. Jean Carré, notre ancienne connaissance, accourut. « Eh bien ? » lui demanda la jeune femme. « Rien encore ?»« Non, madame. »« Mais c'est incroyable !» s'écria Antonia. « Inimaginable !» appuya le valet. « Cependant, c'est bien aujourd'hui qu'il devait venir, n'est-ce pas ?»« Oui, madame, c'est bien aujourd'hui. Aujourd'hui, samedi, il m'avait promis de la façon la plus positive de ne pas manquer. » « Et vous prétendez que l'on peut compter ordinairement sur la parole de cet homme ?»« Ah, madame, je le crois bien. Mathias Aubert est exact autant qu'il est habile. Ce n'est pas d'hier que je le connais. D'ailleurs, son intérêt même lui fait une loi de l'exactitude, puisqu'il doit toucher ici de grosses sommes. »« Mais alors, comment expliquer ce retard ?»« Je ne l'explique pas, madame, et je m'en étonne. Il faut qu'il soit arrivé quelque chose à Mathias Aubert. » Mais que peut-il lui être arrivé ? S'écria Antonia Verdi. Qui le sait ? Le métier d'espion est parfois dangereux. Si madame le désire, je puis aller m'informer dans l'endroit où Mathias Aubert passe ordinairement ses soirées. Oui, allez, répéta Antonia. Jean Carré fit la grimace. Il n'avait formulé l'offre qui précède que parce qu'il pensait qu'Antonia la refuserait. Elle on sait qu'il ne devait avoir aucune sympathie pour le cabaret de Mars et Vénus. Cependant, il se préparait à obéir. Au moment où il allait sortir du boudoir, un coup de cloche brusque et strident retentit à la porte de l'hôtel. « C'est peut-être lui !» dit Antonia en tressaillant. « Certainement, ce doit être lui !» répéta le valet. « Allez vous en assurer, et si c'est en effet l'homme que j'attends, amenez-le ici sans perdre une minute !» Jean Carré descendit rapidement et il trouva Mathias Aubert, car c'était bien lui, parlementant avec le Suisse qui, sur le vu de sa mauvaise mine, ne voulait point le laisser entrer. Hâtons-nous d'ajouter que ce fonctionnaire était excusable, car Mathias Aubert, toujours fort laid comme on sait, offrait ce soir-là un aspect véritablement hideux. Le bandeau noir dont nous avons déjà parlé lui couvrait plus que jamais une partie du visage, et en outre, la trace du coup de fouet de Breton formait sur la moitié visible de sa figure un large sillon d'un violet sombre. « Ah, mon Dieu, mon pauvre Mathias !» s'écria Jean Carré en reculant presque de surprise. « Comme te voilà fait !»« Je ne suis pas beau, n'est-ce pas ?» répliqua le lynx avec un sourire amer. « Franchement, quoi qu'on affirme que le petit Cupidon porte un bandeau, le tien ne te donne aucune ressemblance avec le fils de Madame Vénus. Qui diable t'a donc arrangé de cette façon-là »« Qui ? Eh par Dieu, le valet du chevalier Raoul de la Tremblay !»« Et sous quel prétexte ?» Sous prétexte que je lui offrais de l'argent pour répondre à quelques questions. Voilà un drôle bien mal élevé, et qui me paraît avoir la main terriblement leste. C'est un compte à régler entre nous deux. Je me vengerai du valet, et j'espère bien que ta maîtresse me vengera du maître.
Chapitre 21. Le rapport. Tu apportes donc des renseignements ? Demanda Jean Carré.
« Je crois bien que j'en apporte.
Et de bon ?
d'assez curieux, je te jure. La plus mortelle ennemie du chevalier de la Tremblée ne pourrait souhaiter quelque chose de mieux et de plus complet. Pourquoi viens-tu si tard? Madame t'attend depuis le milieu de la journée, et elle est à moitié folle d'impatience. Je n'ai pas pu venir plus tôt, et j'ai bien cru que je ne viendrais pas du tout. On m'a jeté depuis le marchepied d'un carrosse sur le pavé. Je devais me tuer 100 fois pour une. Je me suis relevée et j'ai cru que ce ne serait absolument rien. Mais au bout d'une heure, j'étais roide, et je ne pouvais plus remuer ni pied ni patte. Il m'a fallu me faire frictionner pendant plus de 2 heures. Ah, ta maîtresse ne pourra se plaindre de moi. J'ai crânement gagné mon argent. » Le colloque qui précède avait lieu dans le vestibule du rez-de-chaussée, au pied de l'escalier qui conduisait au premier étage. Le bruit d'un timbre, sur lequel on frappait violemment et à plusieurs reprises, parvint aux deux interlocuteurs. « Allons bon, » murmura Jean Carré. « Voilà madame qui est en train de se mettre en colère. Si ça ne fait pas pitié, ma parole d'honneur. Ces maîtres se figurent que nous sommes créés et mis au monde pour les servir. Parce qu'ils nous paient. Voyez un peu la belle raison. » Le timbre résonna de nouveau. « Montons, » dit le valet. Un instant après, il ouvrait la porte du boudoir et il s'effaçait pour laisser passer l'espion en disant « Voici la personne que madame attend. » L'impatience nerveuse d'Antonia Verdi tomba comme par enchantement. Elle oublia ses longues heures de fiévreuse attente et sans même interroger Mathias Aubert sur les causes de son retard, ainsi que venait de le faire Jean Carré, elle lui dit « Ainsi, c'est vous qui devez me renseigner sur le compte du chevalier de la Tremblée. » « C'est moi-même, madame, » répondit le lynx, ébloui par la beauté de la jeune femme. « Que savez-vous ? » « Beaucoup de choses. Parlez vite. » Mathias Aubert tira de sa poche un rouleau de papier. « Qu'est-ce que cela ? » demanda Antonia. « Cela, madame, c'est le résultat de mes soins et de mes labeurs. » Puis, se servant d'une phrase qui sans doute était stéréotypée dans son esprit et sur ses lèvres, car nous l'avons entendu employer déjà cette phrase dans une circonstance identiquement semblable, il ajouta « Je suis un homme de conscience, madame, et j'ai voulu agir grandement. J'ai donc fait mettre au net et rédiger mes notes par un de mes amis, écrivain public du plus rare mérite, et qui pourrait bien un jour ou l'autre entrer à l'académie. Ça m'a coûté 2 louis, ni plus ni moins, mais c'est un bien joli travail. Du reste, madame va en juger par elle-même. » Il déploya son rouleau et il demanda « Madame veut-elle que je lise ?»« Oui, » répondit Antonia. Mathias Aubert commença ainsi. Rapport présenté à la signora Antonia Verdi au sujet de monsieur le chevalier Raoul de la Tremblée par son très humble serviteur, Mathias Aubert, surnommé le Lynx. Le chevalier Raoul de la Tremblée appartient, du moins c'est une croyance généralement accréditée, à une très antique et très noble famille de la province de Picardie. Nous devons du reste, jusqu'à nouvel ordre, nous en rapporter au bruit public, car le temps manquait pour aller aux informations dans le pays même, qui est le berceau de la famille. D'ailleurs, cette recherche, qui n'était point ordonnée à Mathias Aubert, n'aurait sans doute produit que des résultats complètement insignifiants. Le chevalier de la Tremblée, venu à Paris en compagnie d'un seul valet nommé Jacques, son compatriote, valet qui pousse le dévouement à son maître jusqu'au plus absurde fanatisme, a vécu pendant de longues années d'une vie de hasard et d'aventure, jouant gros jeux, gagnant parfois des sommes immenses, parfois se trouvant sans un sou et réduit aux expédients. On suppose, mais sans cependant pouvoir l'affirmer d'une façon absolue, que dans ces moments de dure nécessité, le chevalier dut avoir souvent recours, pour se procurer de l'argent, à des moyens au moins douteux, car il eut pour maîtresse une très belle fille qui s'appelait Émeraude et qui faisait partie d'une association de bandits parfaitement organisée. Il paraît inutile d'insister sur ces faits qui remontent à une époque déjà reculée. Divers hasards, également trop longs à expliquer, du moins par écrit, mais sur lesquels Mathias Aubert est à même de donner de vive voix des détails, si la signora Antonia Verdi le désire, mirent le chevalier de la Tremblée en rapport d'affaires avec un vieux juif, énormément riche et immensément rapace, qui prêtait sur gage et faisait une foule d'autres métiers fort lucratifs. Ézéchiel Nathan, tel était le nom du juif en question, avait une fille belle comme les anges. Chevalier de la Tremblée et Déborah, la fille du juif, se virent et s'aimèrent. Le chevalier, soit que son amour lui fît oublier sa noblesse, soit que les fabuleuses richesses du vieux juif lui parussent une compensation plus que suffisante à une mésalliance, demanda la main de la belle Déborah et l'obtint. Mais voici qu'au moment où l'union des deux amoureux allait être célébrée, la fille du juif tomba malade, d'une maladie très extraordinaire, et mourut. Déborah avait une amie intime. Cette amie, fille d'une vieille sorcière, tireuse de cartes et diseuse de bonne aventure, connue dans Paris sous l'appellation de la mère Moloch, portait deux noms aussi étranges l'un que l'autre. On la nommait tantôt Hébé, tantôt la fille du diable. Au moment où Mathias Aubert en arrivait à cet endroit de son rapport, Antonia Verdi changea de position sur son sofa. L'expression de sa physionomie s'assombrit. Une ride légère se creusa entre ses sourcils. Mais elle n'interrompit pas le lecteur, et son attention parut redoublée. Mathias Aubert continua. « Cette fille du diable, dit-il, était une femme très jolie et une très rusée commère. Après avoir promené, à ce qu'il paraît, dans tous les pays du monde, sa jeunesse extrêmement accidentée, elle trouva fort à propos de consoler le chevalier Raoul de la perte de sa fiancée, et elle y parvint sans trop de peine. Au bout de 2 ou 3 mois, un peu plus ou un peu moins, elle était devenue légitimement Madame de la Tremblée. Il n'a pas été possible de savoir d'une façon précise ce qui se passa dans ce ménage. Mais on est en droit de conjecturer que la paix n'y régna pas longtemps, puisque Madame de la Tremblée disparut un beau matin et que depuis lors, ni son mari, ni personne n'a pu venir à bout de savoir ce qu'elle était devenue. Il convient de placer, après cette disparition, un assez long intervalle pendant lequel il ne se passa rien qui paraisse digne d'attirer l'attention. Si ce n'est cependant un voyage du chevalier, voyage entrepris dans un but mystérieux, à la tête d'une douzaine de bandits recrutés dans les plus mauvais endroits de Paris. Le hasard ayant permis que tous ces bandits, sans exception, eussent été roués vifs ou pendus depuis lors pour diverses causes, il n'a point été possible de réunir les renseignements désirables. Quelque temps après ce voyage, le chevalier de la Tremblée retrouva cette émeraude qu'il avait perdue de vue pendant quelques années et qui, toujours aussi jolie que par le passé, s'était fait une grande et bizarre position. Émeraude était devenue reine. Pour la première fois en ce moment, Antonia Verdi interrompit la lecture de Mathias Aubert. « Reine ? » s'écria-t-elle avec surprise. « Que voulez-vous dire ?»« Si madame veut bien me permettre de continuer, dit l'espion, la suite de mon rapport lui donnera de la façon la plus complètement satisfaisante l'explication qu'elle désire. »« Allez donc, » répondit la jeune femme. Et Mathias Aubert reprit. « Oui, Émeraude était reine, reine absolue, non plus comme jadis d'une petite troupe de filous, mais bien d'une association organisée sur une immense échelle pour la fabrication et l'émission de la fausse monnaie. Un vieux château, situé à quelques lieues au-delà de Saint-Germain et nommé le Château des Fantômes, ou le Château Maudit, ou le Château des Spectres, servait de quartier général à l'association, et ces prodigieux souterrains renfermaient et renferment encore le plus complet matériel de fourneaux, de creusets, de balanciers, etc., etc., que le monarque d'un grand royaume ait jamais pu rassembler dans son hôtel des monnaies. « Et vous dites, » demanda Antonia Verdi en interrompant de nouveau Mathias Aubert, « et vous dites que ce matériel existe encore ?»« Oui, madame. Mais alors, la fabrication de la fausse monnaie continue ?»« Certes. Comment savez-vous tout cela ?» Mathias Aubert s'inclina. « J'ai eu l'honneur, » répondit-il ensuite, j'ai eu l'honneur de faire partie pendant quelque temps de la bande honorable des faux-monnayeurs du Château des Fantômes. » Cette raison était péremptoire. Antonia Verdi s'en contenta et ne put même s'empêcher de sourire légèrement. Mathias Aubert reprit sa lecture. « La reine Émeraude, continua-t-il, était à ce qu'il paraît passionnément éprise du chevalier de la Tremblée. Elle le lui prouva en lui révélant les secrets de la mystérieuse association et en le mettant à la tête des hommes hardis et prêts à tout qui la composaient. À partir de cet instant, l'existence du chevalier changea. Il disposait de richesses incalculables qui firent de lui un personnage d'une grande importance. Il étonna et il éblouit Paris par son luxe. Il se fit l'ami et le compagnon d'une foule de seigneurs, fort bien en cour, parmi lesquels il convient de citer en première ligne le marquis de Tianges, devenu l'inséparable du chevalier de la Tremblay. C'est par le marquis de Tianges qu'il fut présenté à son Altesse royale le régent, qui l'accueillit fort bien. Monsieur de la Tremblay sut métamorphoser la bienfaisance du régent en un patronage très sérieux, en une protection très réelle. Il flatta les goûts de Philippe d'Orléans pour les sciences occultes, il se fit passer pour un adepte, pour un initié. Enfin, il établit sa faveur sur des bases solides. On prétend même, mais il est impossible d'appuyer ces méchants bruits sur aucune preuve, on prétend même que le régent n'ignore point quelle est l'origine des pièces d'or fausses qui inondent Paris et la France, et que, soit qu'il retire des avantages de cette fausse monnaie, soit pour tout autre motif qu'on ignore, il ferme les yeux. Émeraude mourut. Monsieur de la Tremblay se consola de cette nouvelle perte par de nombreux succès auprès des belles dames de la cour et des belles filles de l'opéra. Un jour, ou plutôt une nuit, le chevalier et son valet Jacques revenaient en poste du château des fantômes. Un accident arriva à l'attelage, non loin de la machine de Marly. Le carrosse fut brisé et Monsieur de la Tremblay, évanoui et à moitié mort, reçut l'hospitalité dans une sorte de gentilhommière, appelée le Petit Chastel, et habitée par une dame de Chambard et par sa fille Jeanne. Cette Jeanne était extrêmement jolie. Le chevalier, aussitôt qu'il fut revenu à lui-même, et à peu près guéri, s'en éprit éperdument. Tandis qu'il était dans cette maison, la mère de la jeune fille fut assassinée. On n'a jamais su par qui, ni comment. On allait arrêter le chevalier, comme étant vraisemblablement l'auteur de ce meurtre, mais il se tira d'affaire en montrant une sorte de sauf-conduit émanant de Philippe d'Orléans, signé de son signe et scellé de son sceau, et défendant à qui que ce fût, et pour quelque motif que ce pût être, d'inquiéter le chevalier de la Tremblay. Tous ces détails, ainsi que la plus grande partie de ceux qui suivent, sont dus à une brave paysanne du nom de Claudine, habitant avec son mari une maisonnette située non loin du Petit Chastel. La mère, une fois morte et enterrée, le chevalier continua à idolâtrer la fille, qu'il appelait sa reine bien-aimée, non point en souvenir de la pauvre reine Émeraude, mais à cause de sa ressemblance accidentelle et prodigieuse avec la principale figure d'une tapisserie âgée de 300 ou 400 ans, qui représentait la reine de Saba et qui se trouvait dans une salle basse du Petit Chastel. La signora Antonia Verdi est priée de ne point perdre de vue cette tapisserie, de laquelle il sera fortement question tout à l'heure. Le chevalier de la Tremblay fit de ses deniers l'acquisition du Petit Chastel, lequel allait être vendu pour payer les créanciers de la défunte Madame de Chambard, et immédiatement après, il amena la jeune fille à Paris et l'y installa dans le plus mystérieux de ses logis. Il en a plusieurs, dont le détail sera donné à la signora Antonia Verdi par une note spéciale. 3 ou 4 jours après l'arrivée des deux amoureux, le chevalier de la Tremblay épousa Jeanne de Chambard. En ce moment, Antonia Verdi fit un brusque haut de corps. « Comment ? » s'écria-t-elle. « Il l'épousa ? Ah ça, mais avait-il la preuve que sa première femme était morte ? Ou bien est-ce donc que dans ce royaume de France, la polygamie n'est plus incapendable, comme du temps de Molière ? » Sans me départir du profond respect que je dois à la signora, dit Mathias Aubert, j'aurai l'honneur de lui faire observer, comme tout à l'heure, que le rapport répond d'une façon complète et satisfaisante à la question qu'elle veut bien m'adresser. Antonia Verdi se mordit les lèvres et fit un signe de tête qui voulait clairement dire « Continuez ». Mathias Aubert profita de la permission et reprit sa lecture en ces termes. Et quand nous affirmons que le chevalier de la Tremblay épousait Jeanne de Chambard, nous ne sommes pas tout à fait dans la vérité. Il convient de dire qu'il faisait semblant de l'épouser, car le mariage avait eu lieu dans la chapelle de l'hôtel du marquis de Tiange. Et c'est le marquis lui-même, admirablement grimé et portant le costume sacerdotal, qui donna aux deux époux une bénédiction de comédie, dont la jeune femme fut complètement dupe. Si bien qu'aujourd'hui, elle se croit la femme légitime de celui dont elle n'est en réalité que la concubine. Un sourire de triomphe feint aux lèvres d'Antonia Verdi, tandis que Mathias Aubert continuait. Peu de temps après ce simulacre de mariage, le chevalier de la Tremblay, se trouvant dans une maison de jeu de la rue Saint-Honoré, se prit de querelle avec un gentilhomme fort bien en cour, le vicomte d'Aubigny. Un duel s'ensuivit, et dans ce duel, le vicomte fut dangereusement blessé. 15 jours ou 3 semaines après ce duel, Madame de la Tremblay, ou pour lui donner son seul et véritable nom, Jeanne de Chambard, sachant que le chevalier avait fait prendre des renseignements sur le compte de la signora Antonia Verdi par un homme habile. « Ah !» s'écria Antonia. « Le chevalier s'inquiétait de moi ?»«
Oui, madame. »«
Il m'a fait espionner ?»«
Oui, madame. »«
Par un homme habile ?»«
Extrêmement habile. » »«
Et quel était cet homme ?»
Mathias Aubert, après s'être incliné respectueusement, répondit avec une parfaite assurance.
« C'était moi. »«
Très bien, » dit Antonia en se mordant de nouveau les lèvres.
« Et qu'avez-vous appris sur mon compte au chevalier de la Tremblay ?»«
Oh, fort peu de choses. »
Et Mathias Aubert analysa en quelques mots le rapport présenté par lui à Raoul. Ensuite, il reprit sa lecture interrompue. Jeanne de Chambard, sachant que le chevalier avait fait prendre des renseignements sur la signora Antonia Verdi par un homme habile, fut saisie d'un excès de jalousie, sortit furtivement de chez elle et vint au logis de la signora. Ici, l'on passe sans s'arrêter sur des circonstances connues de la signora. C'est pendant que Jeanne de Chambard revenait de l'hôtel de Lyon qu'elle fut insultée par le vicomte d'Aubigny, qui paya de sa vie cette tentative d'enlèvement.
« Est-ce par le chevalier que le vicomte fut tué ?» demanda Antonia à Mathias Aubert.
« Non, madame. »«
Par qui donc ?»«
Malgré toutes mes recherches, il me fut impossible de le découvrir, » répondit Mathias Aubert. Puis il continua.
Sur ces entrefaites, le marquis de Tiange prévint M. de la Tremblay que la faveur de la signora Verdi allait croissant au palais royal, tandis que la bienveillance du régent à son endroit se refroidissait rapidement. Il ajouta qu'il fallait reconquérir par quelques coups hardis le crédit chancelant. La signora Antonia Verdi étonnait et captivait le régent par ses diableries. Il fallait opposer à son diable, diable et demi, et imaginer quelque chose de plus surprenant que ce qu'elle imaginait elle-même. Le marquis et le chevalier trouvèrent sans doute ce qu'ils cherchaient. Tous deux soupaient au palais royal il y a 5 jours, et à ce souper, Monsieur de la Tremblay parlait d'une tapisserie merveilleuse qu'il possédait. Tapisserie représentant la reine de Saba offrant des présents au roi Salomon et dont, à son ordre, les personnages devenaient vivants. Il y a 3 jours, le marquis et le chevalier, accompagnés de 2 valets, allaient au petit Chastel, en rapportaient la tapisserie en question et l'envoyaient au régent. Aujourd'hui, Monsieur de Tiange, Monsieur de la Tremblay et Jeanne de Chambard, cette dernière déguisée en négrillon, arrivait au palais royal où ils sont encore. Enfin, c'est ce soir, à minuit, que le chevalier doit évoquer la reine de Saba devant son Altesse royale Philippe d'Orléans et lui montrer une figure animée et vivante à la place d'une figure de canevas et de laine. Le rapport finissait là. Mathias Aubert roula tranquillement son manuscrit et le présenta à la jeune femme en lui disant « J'ose espérer que la signora est contente du zèle et des lumières de son très obéissant serviteur.
Oui, répondit vivement Antonia, en quittant le sofa sur lequel elle était restée étendue jusqu'à ce moment. Je suis contente, très contente.
Et tout en parlant ainsi, elle frappa sur le timbre que nous connaissons. Jean Carré se présenta d'autant plus vite que pendant tout le temps qu'avait duré la lecture du rapport, il était resté derrière la porte, l'oreille collée contre le panneau, écoutant avec une attention religieuse et soutenue.
« Emmenez cet homme !» lui dit Antonia en désignant Mathias Aubert. « Donnez-lui l'argent convenu et 10 louis de plus. Et avant toute chose, dites au cocher d'atteler mon carrosse. Il faut que je sorte à l'instant même. »
« Il est près de minuit, madame, » fit observer Jean Carré. « Et je crois bien que le cocher doit être couché et endormi. »«
Eh bien, qui se réveille? Qui se lève? Et surtout, qu'il se hâte. Allez !»
Tandis qu'on exécutait les ordres qu'Antonia venait de donner d'une façon si impérative et si précise, la jeune femme, quittant le peignoir blanc qu'elle portait, revêtait rapidement et sans réclamer l'assistance d'une camériste, un somptueux costume de cour. Cette toilette achevée, elle attacha sur son visage un demi-masque de velours et debout, frappant du pied avec une fiévreuse impatience et murmurant des paroles entrecoupées et inarticulées, elle attendit qu'on lui vînt annoncer que son carrosse était prêt. Minuit sonnait, au moment où elle franchissait le marchepied. « Où va madame ?» demanda Jean Carré, qui s'apprêtait à suivre sa maîtresse en qualité de valet de pied.
« Au palais royal, » répondit Antonia Verdi. « Dites à Picard de brûler le pavé !»
Le carrosse s'ébranla et les deux chevaux l'emportèrent au trot le plus impétueux. Au bout d'une heure et quelques minutes, ce même carrosse rentrait dans la cour de l'hôtel d'Antonia. La jeune femme en redescendait et regagnait sa chambre à coucher. Elle était pâle et ses traits contractés annonçaient clairement qu'elle venait d'avoir à subir quelque terrible contrariété, quelque déception inattendue. C'est qu'en effet, Antonia n'avait pu même parvenir à franchir le seuil des petits appartements du palais royal. Elle s'était vainement nommée. Vainement, elle s'était fait reconnaître de l'un des valets de chambre de service cette nuit-là. Toutes ses tentatives avaient échoué en face d'une consigne donnée par le régent lui-même et défendant d'admettre qui que ce fût et sous quelque prétexte qu'on se présentât. « Triomphe cette nuit, chevalier de la Tremblée !» balbutia Antonia Verdi avec rage, tandis qu'elle brisait les lacets de son corsage de brocart. « Triomphe ! Demain, j'aurai ma revanche !»